Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de factures via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Ça y est, on connaît depuis hier soir le tableau complet des quarts de finale de la Coupe du Monde de football. Et malgré l'élimination en huitième de grandes nations comme l'Argentine, le Portugal et l'Espagne, il y a de belles affiches en perspective. D'abord, évidemment, Uruguay et France, les Bleus gonflés à bloc après leur match fou face à l'Argentine. Ensuite, Brésil-Belgique, l'autre match choc de ces quarts de finale avec un Neymar brillant face au Mexique. Et des Diables Rouges, dont la qualification tient véritablement du miracle. Suède-Angleterre, les Anglais ont difficilement éliminé hier soir la Colombie au tir au but. Et enfin, quatrième affiche, Russie-Croatie, les Russes tombeurs, surprise de l'Espagne. Alors, quel match vous semble le plus prometteur? Quelle équipe allez-vous soutenir? Et dites-nous évidemment quels sont vos pronostics pour les demi-finales. 33 9 693 693 70, vos réactions. Notre débat du jour, ce sera dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer, tiens, avec une question concernant la Coupe du Monde de football et surtout l'impressionnante logistique de l'équipe de France en Russie. Bonjour, Erson.
Oui, bonjour, monsieur Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Kinshasa, nous vous écoutons.
Oui, j'ai suivi sur les ondes de la RFI il y a quelques jours que l'équipe de football de France aurait transporté 19 tonnes de matériel pour son campement en Russie. Bien que je ne connaisse pas le tonnage de toutes les équipes qui sont allées en Russie, mais à mon humble avis, cela paraît beaucoup et même exagéré. J'aimerais savoir, cette forte logistique, soit ces 19 tonnes de matériel, comprennent quoi exactement?
Eh bien, c'est Antoine Grenier, l'un des envoyés spéciaux de RFI, qui va vous répondre. Il est sur place, il est même au centre des médias des Bleus, où l'équipe de France tient en ce moment même une conférence de presse. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour Erson, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Vous suivez depuis le début de la compétition l'équipe de France de football. Vous confirmez déjà le chiffre annoncé à l'instant par notre auditeur, par Erson, 19 tonnes de matériel envoyées à Istra dans le camp de base des Bleus?
Alors, j'ai pas pesé moi-même, hein, mais oui, c'est le chiffre qui nous a été donné par la Fédération française de football. Ce qu'il faut savoir pour expliquer ce chiffre, qui paraît effectivement assez impressionnant, c'est que une équipe professionnelle de football dispose de matériel de pointe et surtout, elle ne se déplace qu'avec ses propres équipements et notamment pour ne pas perturber les habitudes que les joueurs ont pu acquérir lors de leur semaine de préparation à Clairefontaine. Alors, dans ces 19 tonnes, il y a une partie qui est plutôt logique, on va dire, c'est celle qui concerne l'entraînement des joueurs, c'est-à-dire tout ce qui sert aux entraînements d'avant-match ou dans la semaine, les plots, les mannequins pour les exercices de coups francs, et puis surtout les tenues des joueurs et du staff, les tenues d'entraînement et les tenues de match pour les 23 joueurs et la vingtaine de personnes présentes dans l'encadrement ici à Istra. Bon, ça c'est pas forcément le plus lourd, ça fait pas 19 tonnes. C'est surtout les appareils de fitness, en fait, d'entretien physique qui prennent du poids, notamment les bancs de musculation, les poids, les haltères, tous les équipements qui permettent aux joueurs de s'entretenir physiquement. De travailler le gainage par exemple. Il faut savoir que l'équipe de France a emmené depuis Clairefontaine des vélos d'appartement, des tapis de course. Les Bleus en fait se sont déplacés tout simplement avec leur propre salle de sport, et une salle de sport pour 23 personnes, pour 23 joueurs, donc je vous laisse imaginer le poids que ça peut faire. Et puis à côté de ça, il y a tous les équipements médicaux, la demi-douzaine de lits de massage, tous les pansements, les bandages, les médicaments. Tout ça, en fait, 19 tonnes ont été transportées pour ne pas avoir à acheter le matériel sur place évidemment, parce que ça représenterait un budget simplement énorme.
Et l'idée, Antoine Grenier, c'est de reproduire les mêmes conditions de travail qu'à Clairefontaine, le fief des Bleus en Ile-de-France, dans les Yvelines. Vous parliez de budget à l'instant, ça représente quelle somme, quel budget, le transport de toutes ces infrastructures?
Alors le budget juste du transport, la Fédération française ne l'a pas officialisé. Ce qu'on sait, c'est que la FFF dépense 15 millions d'euros pour la vie des Bleus sur place lors de la compétition. Le transport en lui-même du matériel et des 19 tonnes a nécessité une semaine de voyage pour 4 camions transportant le... Quatre camions transportant le matériel. Les 15 millions d'euros, voilà, il y a une partie qui a été consacrée à ça, mais il y a aussi une partie qui est consacrée à la vie sur place et surtout au réaménagement du camp de base de l'équipe de France avec la décoration des chambres ou même du centre des médias qui est tout aux couleurs de la FFF. 15 millions d'euros, c'est la dotation de la FIFA pour une équipe participante. Et la Fédération française de football ne sera excédentaire lors d'une Coupe du Monde qu'en cas de quart de finale. C'est déjà le cas et elle commencera à gagner de l'argent si elle s'impose contre l'Uruguay vendredi.
Vendredi, coup d'envoi, rappelons-le, à 14h temps universel. Antoine Grenier, merci d'avoir répondu à Airson. Je vous laisse retourner en conférence de presse puisqu'Adil Rami répond en ce moment même aux questions des journalistes. Airson, bonne journée à Kinshasa, 10h17 à Paris. Vous nous appelez vos questions 33 9 693 693 70. Bonjour Fred.
Bonjour Juan.
Des questions sur le premier forum Chine-Afrique consacré à la défense et à la sécurité.
Oui, comme vous venez de souligner, Pékin organise le premier forum sino-africain sur la défense et la sécurité en Afrique. J'aimerais savoir sur cette question, pourquoi la Chine porte cet intérêt avec l'Afrique au niveau sécuritaire et de l'armement? Quels sont les objectifs militaires concrets que prévoit la Chine envers l'Afrique?
Alors, Simon Le Plâtre est avec nous, il est le correspondant de RFI à Shanghai. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors, depuis maintenant une semaine, des représentants de 50 pays africains sont à Pékin pour renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense. Ce qu'il faut dire à Fred, c'est que l'intérêt de la Chine pour l'Afrique n'est pas nouveau.
Oui, ça fait enfin, économiquement, ça fait des années, militairement, ça fait aussi plus d'une quinzaine d'années que la Chine voit l'Afrique comme un lieu stratégique. Alors, je pense qu'il s'agit d'abord quand même de, pour remettre en contexte, les intérêts de l'Afrique en Chine sont d'abord économiques. Donc, on peut distinguer deux axes pour expliquer les investissements chinois. D'abord, quelque chose d'assez classique que font d'autres pays. La Chine recherche en Afrique des ressources naturelles, des ressources agricoles. Plus récemment, la Chine voit aussi certains pays d'Afrique comme des réservoirs de main-d'œuvre bon marché, parce que la Chine commence à avoir les salaires qui augmentent. Donc, par exemple, dans l'industrie du textile, il y a des patrons chinois qui investissent en Afrique, et puis aussi comme des marchés, puisque il y a des pays d'Afrique qui s'enrichissent, donc des marchés pour écouler ses propres produits. L'autre raison économique pour les investissements chinois en Afrique, c'est la plus spécifique à la Chine, c'est que la Chine a des surcapacités industrielles. En gros, il s'agit de donner du travail à l'industrie de l'acier, l'industrie du ciment, aux entreprises du bâtiment, parce qu'en Chine, après avoir fabriqué des maisons, des infrastructures pendant 20 ans à un rythme effréné, aujourd'hui, ça se calme un peu, la demande est plus faible. Donc, c'est des industries qui ont moins de demandes à la maison. Ouais. Donc, voilà, elles veulent s'exporter pour écouler ses surplus.
Ses surplus. Et forcément, à mesure que la Chine investit en Afrique, elle a des intérêts et des intérêts qu'elle doit défendre sur ce continent.
Oui, bien sûr, c'était relativement attendu. Et c'est là où le discours de la Chine consistant à dire on fait du gagnant-gagnant, on est une puissance pacifique, on n'est pas comme les puissances coloniales occidentales, ce discours trouve ses limites. Parce que fatalement, n'importe quelle puissance qui a des intérêts économiques va vouloir les protéger un jour. Et si on regarde les investissements chinois de plus près, on s'aperçoit que Pékin prête souvent des milliards aux pays africains pour financer les projets d'infrastructure et ça crée une dépendance vis-à-vis de Pékin.
Ouais.
Donc en fait, ce n'était... Pardon.
Non, allez-y.
Oui, je disais, c'était qu'une question de temps pour que la Chine s'implique davantage au niveau militaire aussi, pour défendre ses intérêts économiques.
Alors Fred nous disait, nous demandait à l'instant quels étaient les objectifs de la Chine. Est-ce qu'elle a des projets bien concrets en matière de défense et de sécurité?
Alors, le forum qui se tient en ce moment à Pékin, apparemment, n'est pas là pour faire avancer des objectifs précis, du moins de ce qu'on en sait, parce qu'il n'est pas ouvert à la presse et les médias officiels chinois ont donné très peu d'informations. Mais apparemment, le but de ce forum, c'est plutôt de renforcer les liens avec les militaires africains, en gros, renforcer l'amitié et puis gagner en influence sur le long terme. Mais concrètement, oui, la Chine a bien des objectifs en Afrique. On le voit depuis quelques années, mais le tournant, ça a été l'année dernière, en 2017, la Chine a ouvert sa première base militaire à l'étranger. C'était en Afrique, c'était à Djibouti. Voilà, un autre objectif pour la Chine en Afrique, c'est par exemple la vente d'armes. On ne le sait pas beaucoup, mais la Chine est en train de devenir une puissance en matière d'armement. Et donc, sur les zones de conflit en Afrique, on retrouve de plus en plus souvent, par exemple, une version chinoise de l'AK-47, la Kalachnikov, qui s'appelle Type 56 et qui est encore moins chère que l'original. Mais la Chine vend aussi des véhicules blindés et la Chine en offre aussi parfois, ce qui est bien le signe que la Chine cherche à accroître son influence. On n'offre pas des chars d'assaut comme on offre des fleurs. Or, si la Chine vend des armes ou offre des armes, eh bien, à la fois, ça fait tourner son complexe militaro-industriel et puis ça renforce les liens militaires avec les États qui sont les clients. Si vous achetez nos armes, on va vous former pour utiliser ces armes. Donc, on collabore militairement et on sait que la Chine finance déjà des formations à destination des militaires africains. Donc, pour répondre à l'auditeur, la Chine n'a pas d'objectif militaire à court terme en Afrique. Mais il veut plutôt se donner les moyens de protéger ses intérêts économiques sur le continent et d'accroître son influence. Donc, en gros, il s'agit de pousser ses pions pour avoir des États amis, voire des États vassaux, si certains pays africains, deviennent tellement endettés qu'ils ne peuvent plus rien refuser à la Chine. Et c'est ce qui est arrivé récemment au Sri Lanka, donc un tout petit État au sud de l'Inde, surendetté auprès de la Chine, qui a dû céder un port à une entreprise d'État chinoise pour 99 ans. Donc, pour la Chine, ça veut dire des États sur qui elle peut compter pour soutenir ses positions sur la scène internationale et puis localement, peut-être, où elle pourra installer d'autres bases militaires industrielles.
Ouais. Fred, a-t-on répondu à vos questions ?
Parfaitement, Roi.
Eh bien, on remercie évidemment notre correspondant à Shanghai, Simon Leplâtre. Ce forum sino-africain consacré à la défense et à la sécurité se poursuit encore toute la semaine. 10h23, 33 9, 693, 693, 70. Pancras, bonjour.
Bonjour, mais bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes au Bénin, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, je suis au Bénin, à Cotonou.
Très
alors,
bien.
La semaine passée, le candidat portugais Antonio Vitorino a été élu à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour la migration au détriment du candidat américain, ce qui est une première depuis 1960. Alors, en première position, j'aimerais savoir comment se fait-il que cette institution soit dirigée seulement par les candidats américains depuis 6 décennies. Et en deuxième position, quelles sont les raisons de l'échec du candidat américain pour cette fois-ci?
Ouais, c'est incontestablement un camouflet pour Donald Trump. Bonjour Antoine Pécou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris 13, spécialiste des migrations. Pancras le rappelait à l'instant, c'est vrai que depuis la création de l'Organisation internationale pour les migrations, donc depuis 1951, le poste de directeur général de l'institution est occupé par les États-Unis. Il y a eu certes une petite exception entre 61 et 69, mais comment expliquer cette particularité ?
Oui, alors l'histoire de l'Organisation internationale pour les migrations est très claire. C'est une agence qui a été créée expressément par les États-Unis dans les années d'après-guerre, à l'époque de la reconstruction en Europe, pour s'occuper de ce qu'on appelait à l'époque la surpopulation en Europe, c'est-à-dire tous les déplacés de la Deuxième Guerre mondiale, aux yeux des Américains qui finançaient au même moment le plan Marshall, la reconstruction de l'Europe. Ces gens étaient un obstacle à leur reconstruction. Et en plus, c'était un public cible pour la propagande communiste. Et en conséquence, ils souhaitaient régler ce problème. Et l'OIM, à la base, a été créé pour aider ces gens-là, les inciter à émigrer, notamment vers l'Amérique du Sud ou vers l'Australie. On estime qu'il y a près d'1 million de personnes qui sont parties dans les années 50 avec l'aide de l'OIM d'Europe pour le Nouveau Monde, l'Amérique du Sud, l'Australie, afin de soulager d'une certaine manière la reprise économique en Europe.
Ouais, et puis,
donc très clairement, c'était une stratégie américaine en la matière.
Stratégie américaine, et en même temps les Américains sont le principal contributeur au financement de cette organisation. Donc j'imagine qu'ils se disent, puisque nous sommes ceux qui payons le plus, à nous de diriger l'organisation.
C'est tout à fait vrai, sauf que si on regarde quand même dans le détail, les Américains sont le principal contributeur à pratiquement toutes les organisations internationales sur la planète, à commencer également par les Nations Unies. Donc si on tient ce raisonnement, ils pourraient d'une certaine manière diriger toutes les organisations, ce qui n'est pas le cas. Donc quand même dans le cas de l'OIM, il y a une histoire spécifique qui explique ce lien. Et j'ajoute aussi que votre auditeur parlait des organisations des Nations Unies pour les migrations. C'est pas tout à fait exact, l'OIM n'a rejoint les Nations Unies qu'en 2016. Auparavant, elle était hors du système de l'ONU, et ça s'expliquait notamment par sa rivalité avec le HCR, que les États-Unis ne soupçonnaient de sympathie communiste et qui ne souhaitaient pas voir s'impliquer trop fortement sur certains terrains politiquement sensibles.
Alors, que s'est-il passé vendredi dernier, Antoine Pécou? Rappelons que le directeur général est malgré tout élu à bulletin secret. Comment expliquer la victoire du candidat portugais et donc l'échec du candidat américain?
Donc le candidat américain, Ken Isaacs, a fait une campagne, un peu tardive, dans la mesure où il avait une mauvaise réputation liée à des déclarations particulièrement, problématiques qu'il avait tenues tout au long de sa carrière. C'est un humanitaire de formation qui travaille pour une ONG chrétienne, avec toute une dimension, fortement religieuse, propre à certains aspects de la société civile américaine. Par exemple, il avait affirmé qu'il fallait privilégier les réfugiés chrétiens au détriment des autres. Il avait également dit que l'islam était une religion violente par essence, etc. Des propos qui sont acceptables sans doute dans son milieu professionnel, qui était celui de la société civile évangélique, mais qui, dans une horizon internationale, évidemment, ne passe pas. Et ça l'a sans doute pénalisé. Il a fait une campagne plus consensuelle vers la fin, mais il n'est pas parvenu à inverser la tendance.
Oui.
Et il est clair que l'actualité aussi migratoire aux États-Unis, avec les enfants séparés de leurs parents, placés dans des cages, l'avait évidemment desservi. C'était pas la meilleure image qu'on pouvait donner pour un candidat américain à une organisation des Nations Unies aujourd'hui pour les migrations.
Oui, l'OIM, les membres de l'OIM qui ont donc sanctionné les propos anti-musulmans de Ken Isaacs, le candidat américain, mais aussi la politique migratoire de Donald Trump. Il nous reste deux petites minutes. Pancras, vous avez une dernière question?
Oui, j'ai une dernière question, et c'est de savoir quelles seront les conséquences que pourrait avoir la non-élection du candidat américain sur le fonctionnement des institutions.
Ah, conséquences budgétaires peut-être, Antoine Pécou?
C'est fort possible. Après, il faut savoir que l'OIM a une manière très spécifique de fonctionner sur le plan budgétaire, c'est-à-dire que les États ne financent que les projets qu'ils souhaitent financer et qui les intéressent. C'est à la carte, si vous voulez. Si bien qu'en réalité, l'État qui paye décide, peu importe qu'il obtienne la direction ou pas, dès lors qu'il finance un projet, il le définit en co-construction avec l'OIM, et l'OIM exécute donc ce projet.
Ouais.
Donc de ce point de vue-là, le bailleur de fonds a toujours le dernier mot sur le contenu du projet, quelle que soit la nationalité du directeur. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas que ça va changer beaucoup de choses. Et par ailleurs, Antonio Vitorino est un ancien commissaire européen. Il est tout à fait, aligné sur la préoccupation des pays du Nord de lutter contre l'immigration irrégulière, de tout faire pour prévenir l'arrivée de migrants indésirables dans les pays du Nord. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que ça va changer profondément les orientations stratégiques de l'OIM.
Mais peut-on imaginer,
tout
de même que Donald Trump décide de se retirer de l'OIM, comme ce fut le cas il y a récemment avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies?
C'est pas totalement à exclure. Cependant, autant dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ou dans l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à laquelle Trump a retiré des financements en décembre dernier, ce sont des agences qui, depuis des décennies, sont dans le collimateur des États-Unis. Ça ne date pas de Donald Trump. Les États-Unis ont toujours été sceptiques par rapport au mandat des droits de l'homme du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Ils ont toujours protesté contre la présence de certains États à ce Conseil. Et donc, Trump n'a fait qu'entériner une décision qui était, dans les tuyaux depuis la création de cette organisation. Dans le cas de l'OIM, on n'est pas du tout dans la même configuration.
Très bien. Merci beaucoup, Antoine Pécou, d'avoir été avec nous, spécialiste des migrations. Pancras, bonne journée à Cotonou. Restez avec nous dans 10 minutes. Vos pronostics pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football. Mais d'abord, retour vers la rédaction de RFI. C'est l'heure du journal.